Si nous sommes enfants de Dieu, et quand on est enfant de Dieu, on aimerait bien savoir ce que Dieu pense de nous, de ce qu'il veut pour nous. Vous êtes d'accord? Alors je peux aller donc. Donc c'est un message sur Dieu dirige par les songes, aussi par d'autres choses. Il y a quelques semaines, j'ai donné un message sur Dieu dirige par les rencontres divines. Ça va? Vous vous souvenez vaguement peut-être, oui. Aujourd'hui, c'est Dieu dirige par les songes à la fin de juin. Je crois que c'est le 24 juin. Je vous donnerai un message, Dieu vous lance sur Dieu nous dirige par les pensées. Et ensuite, j'aurai un message sur Dieu nous dirige par les prières. Et ensuite, Dieu nous dirige par les circonstances. Donc, il y aura 5 messages, comme 5 doigts. Comme ça, vous avez une idée où on va. J'aimerais bien savoir toujours où on est, où on va. J'espère que vous avez une bonne semaine. Et comme introduction, j'aimerais vous parler un petit peu de l'apôtre Pierre. Pierre était un homme pas intéressant avant sa conversion. Juste avant la mort de Jésus, il était même un traître, il était un menteur. Il dit, moi, Jésus, jamais vu, je ne connais pas. Il était instable, fragile. Pierre n'était pas un homme intéressant vraiment avant ça. Avant la venue du Saint-Esprit. Mais tout a changé quand le Saint-Esprit est venu. Et je vais parler de Pierre maintenant, quand il a changé. Pierre, il est devenu, par le Saint-Esprit, il est devenu messager de Dieu avec puissance, avec une nouvelle vie qui venait du Saint-Esprit. Quelle différence! Pierre, avant, il était un menteur, il était faible, il était fragile. Après cela, par le Saint-Esprit, c'est devenu un homme inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, et ça c'est merveilleux. Et un certain jour, il y avait une fête à Jérusalem, des gens sont venus de partout, de 10 nations, 12 nations, 15 nations différentes, ils sont venus à Jérusalem, et là, ils étaient ensemble, parce que c'était la fête, ils avaient entendu un bruit, c'est le Saint-Esprit qui était survenu, parce qu'il y avait 120 personnes qui ont prié. Il y avait un vent, il y avait un bruit. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils étaient vraiment donc curieux de savoir ce qui se passait. Et c'est à 9h le matin. Ils se sont rassemblés peut-être 5000, 6000, 7000 hommes, femmes qui sont venus ensemble là. C'est un lieu énorme. Ils sont venus ensemble tôt le matin. Et puis, quand Pierre les a vus, Pierre les a parlé. Il a parlé comment? Au moins à 5000 personnes sans microphone. Aujourd'hui, on a 20-30 personnes, on a besoin de microphones. Mais là, il y avait 3000 personnes au moins, sans microphone. Et j'ai pensé à ça pendant la nuit. Je dis, mais aujourd'hui, on est bien gâté dans un centre surgâté. Et puis, après cela, il donnait un message. Et dans son message, il n'était pas tendre, Pierre. Il dit, vous êtes tueur, vous êtes meurtrier. Un homme qui était innocent, vous l'avez tué. C'est ça qu'il a donné dans son message. Ils étaient tellement touchés dans leur cœur, ce qu'ils ont dit, ça c'est merveilleux, c'est eux qui ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire alors qu'il faut, ça c'est merveilleux. Aujourd'hui, c'est le prédicateur qui doit dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais eux, ils ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Ça c'est le bon moment. Et je me suis dit, ça c'est merveilleux. Ils étaient vraiment donc changés. Pierre, selon ce que j'ai reçu, lit dans les récits de l'acte des apôtres, il a donné un message, et par un message, 3000 personnes se sont converties. Aujourd'hui, il faut donner 3000 messages pour une conversion. Tout a changé, j'ai pensé ça hier, j'ai dit le monde à l'envers. Tout a changé, un message, 3000 conversions. Quel changement! Que ferions-nous? Et Pierre n'était pas tendre avec eux, et il a dit, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité de mort. Quand moi je suis converti en 1958, à 9h30 le soir, tout a changé. Parce que je suis allé dans le groupe de jeunes, et le premier livre qu'on a étudié, c'était les Actes des Apôtres. Et je suis très reconnaissant qu'on a commencé avec les Actes des Apôtres, parce qu'ils étaient dans la même situation que nous, frères et sœurs. Jésus n'était pas physiquement avec eux, mais par leur esprit, par le Saint-Esprit, il était là avec eux. Et ça change tout. Et peut-être vous le savez, peut-être non, mais dans les Actes des Apôtres, on trouve 19 sermons 19 messages et c'est tout sur la résurrection de Jésus. Nous parlons souvent de sa mort, mais là c'était Jésus est vivant. Dieu l'a ressuscité. Celui qui était mort, il est vivant. Il est parmi nous et il faisait des miracles, il faisait des guérisons. Et il y a 2000 ans, Jésus faisait des miracles. Est-ce que vous avez entendu certains le nom de Billy Graham? Quand il a prêché, Billy Graham, parce que nous l'avons rencontré souvent, pendant 6 semaines, Beryl et moi, nous étions avec Billy Graham tous les jours. Tous les soirs, nous étions là à Manchester, dans des réunions, nous l'avons entendu, nous étions dans la chorale, nous étions nos conseillers, on l'a entendu. Et quand il a commencé à prêcher, Billy Graham, on a dit aux États-Unis, cet homme-là, c'est un chrétien qui parle aussi, il voulait retourner à une église d'il y a 100 ans. Et Billy Graham a dit, ils se sont trompés. Pas 100 ans, il y a 2000 ans. Je voulais bien avoir une église qu'il y a 2000 ans. Et c'est ça, nous devons retourner à ce qu'on trouve dans les actes des apôtres. Et moi, je suis content. Donc, à mon âge, j'avais 21, 22 ans, je suis allé dans ce groupe de jeunes, on a étudié les actes des apôtres avec Jésus vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit? Est-ce que nous voulons avoir la même vie que cette église-là? Donc, l'apôtre Pierre, il a commencé de prêcher et il a parlé des choses, il a dit... L'apôtre Pierre, que Dieu parle aujourd'hui, il y a 2000 ans, il dit, par des visions, des prophéties et des songes. On trouve ça, acte 2, verset 17, Monique. Alléluia. Merci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur tous les corps, sur toutes les personnes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pas seulement des vieillards, parce que moi je les ai eu aussi quand je n'étais pas vieux. Et je ne me sens pas vieux, parce qu'on se sent vieux quand c'est ici, quand on se sent vieux. Je sais que la carrosserie ne suit pas toujours, mais le moteur est toujours bon. Alléluia. C'est ça qui est important. Et de temps en temps, Dieu renouvelle aussi la carrosserie. Alors, l'apôtre Pierre a complètement changé par la présence du Saint-Esprit en lui. Et parce que le Saint-Esprit en lui, Pierre donne un message, et pendant qu'il donne son message avec puissance, il cite un passage, deux passages, trois passages, quatre passages de l'Ancien Testament. Et il cite ici un passage en Joël chapitre 2, verset 28. Et ça, c'est important. Quand il prêche, il connaît par cœur la parole de Dieu. Cela montre l'importance de connaître la parole de Dieu pour nous aussi et pouvoir l'appliquer à notre propre vie, mais aussi dans certaines situations. Et parfois, on ne connaît pas bien, on parle avec les gens, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il faut dire et pas dire. Dans les actes des apôtres, Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, pas une puissance. En français, c'est traduit une puissance, mais c'est de la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a des gens qui, moi j'ai eu de temps en temps, j'ai entendu des témoignages, où il y a par exemple une fille qui parle, avant cela, je prenais des drogues, j'étais une prostituée. Et maintenant, on regarde ce que Jésus a fait. Pendant une demi-heure, à part de sa vie, ce qui était, et 5 minutes sur Jésus. Et je dis, moi je n'ai pas de témoignage, je n'étais pas un prostitué, heureusement, je ne prenais pas de drogue, je ne faisais pas ceci, je n'ai pas de témoignage. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Dans les actes des apôtres, on rend témoignage de Jésus, pas de nous-mêmes. Et pour, parfois, quand il a des baptêmes, on parle trop de soi-même et on ne parle pas assez de Jésus. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Alors si j'ai tort, je me réponds. Alors ici, nous voyons que Pierre, il est dirigé par le Saint-Esprit, mais il cite Joël, chapitre 2, verset 28. Est-ce que Joël est là? Non, Joël est... Mais c'est la même chose. Dans Joël 2, 28, on trouve la même chose qu'environ. Et vous saurez que je suis au Dieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, c'est en Joël, 600 ans avant Pentecôte là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieilles auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et Pierre, il cite ça par cœur. Et ça, c'est important. Pendant ces 3-4 semaines, on ne s'est pas vu tout le temps. J'ai eu des conversations avec des secrétaires de médicales. J'ai eu des conversations avec des médecins, avec des spécialistes. Et chaque fois, le Seigneur m'a montré un verset biblique, souvent un verset biblique, souvent Jean chapitre 1, 12, parce que par ce verset, je me suis converti. Et dans ce verset, justement, on trouve que Jésus est la lumière, et à tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par le baptême, ce n'est pas par les hommes, mais c'est par Dieu directement, par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, j'ai eu cette possibilité. Et juste comme témoignage, par exemple, j'ai été chez le cardiologue, la première personne, l'après-midi, 13h30. Mais il n'était pas encore là, mais sa secrétaire était là. Et ce que j'ai fait souvent, dans les salles d'attente, je prends le Nouveau Testament dans ma poche et je lis. J'ai lu encore de nouveau pratiquement tous les actes des apôtres dans les différentes salles d'attente des médecins. Je ne perds pas mon temps, parce que c'est seulement une vie à vivre, je veux bien le vivre, et je veux prendre mon temps avec le Seigneur. Et pendant que je suis en train de lire les actes des apôtres, le Seigneur me dit, donne ce Nouveau Testament à la secrétaire. Donc je suis allé de nouveau, je dis, mais j'ai quelque chose pour vous, un petit livre, je vais vous donner un livre qui m'a aidé, le Nouveau Testament. Et je parle de Jean 1, 12. Comment je me suis converti, je le donne à la secrétaire. Après cela, le spécialiste arrive, le cardiologue, et je suis bien en forme devant vous, je suis vivant. Mon cœur est irrégulier, mais je me sens bien. Et puis il me dit, vous avez donné un petit livre, vous avez donné le Nouveau Testament à ma secrétaire. Je dis, oui, vous avez bien fait. Il dit, moi je vais dans une église, l'église anglicane à Lille de temps en temps, et c'est très bien, ils ont toujours du thé à la fin. Alors là, ce n'est pas si important que ça. Nous avons le café avant, mais ils ont le thé avant. Chaque église est différente. Alors, mais Dieu donne donc, Dieu nous parle, mais d'abord par sa parole. Sachez-le, quand je parle un petit peu de rencontres divines, Dieu nous parle par des rencontres divines. Aussi par des songes, et aujourd'hui c'est par des songes. Mais premièrement, pour nous tous, sachez-le bien, Dieu parle par sa parole. D'accord ? Ça, c'est la première chose à savoir. Alors, expérience de Pierre dans les actes, chapitre 10. Je l'ai encore lu hier, tout le chapitre 10. C'est le salut de Corneille. Qui sait ce que ça veut dire, le mot Corneille ? Son nom Corneille veut dire clairon. Clairon. Mais c'est clair, non ? Clairon, ça veut dire clair. On. C'est clair. Alors, dans le Nouveau Testament, nous trouvons le récit où Dieu se révèle à Pierre par 3 visions. Pierre, c'est un homme qui connaît bien l'Ancien Testament. Et Pierre, donc, il veut obéir à Dieu. Et il ne faut pas manger des reptiles, il ne faut pas manger des animaux qui sont impurs, souillés, tout cela. Et puis, il a 3 visions dans un drap, il voit tous ces animaux qui sont impurs. Et Dieu dit, mange. Tue et mange. Il dit, Seigneur, jamais dans ma vie j'ai mangé quelque chose d'impur, jamais quelque chose de souillé, parce que dans l'Ancien Testament c'est écrit. Mais Dieu dit, mange, tue et mange. De drap parti. Deuxième, de nouveau en vision, de nouveau Pierre le voit, de nouveau. Dieu dit, tue et mange. Non, Seigneur, il n'est pas d'accord, Pierre. C'est merveilleux, dans une vision on peut parler aussi. Et dans ce sens, on peut parler à Dieu. Je le sais parce que j'ai eu l'expérience. Troisième fois, le drap descend avec ces animaux qui sont impurs. Dieu dit, tue et mange. Non, Seigneur, il n'est pas d'accord. C'est l'heure, midi environ, c'est l'heure de manger qu'il a eu cette vision. Et Pierre dit, je ne comprends rien, pourquoi est-ce que c'est cette vision? Toc, toc, toc à la porte. Il y a 3 hommes qui viennent parce que, même temps que Pierre a eu une vision, il y avait ces hommes qui étaient en marche. Parce que 2 jours avant, il y avait un homme qui s'appelle Corneille. Et Corneille, il a aussi une vision, un songe du Seigneur. Dans un sens, je vais expliquer, un songe pendant la nuit, une vision pendant la journée. Mais c'est la même chose, ça revient à ça. Dieu a parlé à cet homme parce qu'il priait depuis longtemps, cet homme de prière. Il était un craignant Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Et il faisait des aumônes. C'est un homme qui montre l'amour pour Dieu, montrait son amour aussi pour les gens autour de lui, donc pour ses prochains, mais il n'était pas chrétien. Et Dieu se révèle à lui. On peut être non-chrétien, et pourtant Dieu se révèle. Quelqu'un qui cherche Dieu trouvera Dieu. C'est dans les proverbes. Donc, Corneille est là, et puis il a envoyé, quand il a entendu la voix de Dieu, il a envoyé immédiatement, il a envoyé des gens vers Joppé. C'était là où il y avait Pierre, l'apôtre Pierre. Donc il les a envoyés, ça prenait quand même 2 jours de suite, 2 jours de route. Donc il a marché, ils ont marché, ils ont trouvé Pierre. Quand il a eu cette vision 3 fois, Pierre, c'est la 3e fois, toc, 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 ces 3 hommes étaient à la porte, envoyés par Corneille. Il faut le faire, coïncidence divine. Parce que si on n'est pas chrétien, on dit c'est juste coïncidence. Tandis que moi, Dieu dirige pas les circonstances aussi, on en parlera une autre fois. Donc, ces visions, ce que Pierre a eu et ce que Corneille a eu, c'était une préparation pour quelque chose de grand. Parce que, vous vous souvenez peut-être, en Matthieu 16, verset 19, Jésus a parlé avec les disciples. Il a dit à Pierre, tu recevras des clés. Et d'abord, Pierre, il a déjà prêché à Jérusalem. Maintenant, il va prêcher l'évangile à un païen. Dieu ouvre une nouvelle porte par les clés que Pierre a eues. Ça, c'est intéressant. Ce que Pierre a eu comme clé, je dis ça pour les amis qui sont d'origine catholique, ce n'est pas le pape. Ce n'est pas une clé pour Pierre, pour lui-même, avec une autorité pour lui-même, mais c'est pour ouvrir les portes. Dans les actes des apôtres, on voyait Jérusalem, Samarie, Judée, Samarie, et puis les païens. On voit les 4 portes qui s'ouvrent, c'est merveilleux les actes des apôtres. Si vous n'avez jamais lu les actes des apôtres, ou si vous l'avez lu il y a longtemps, lisez de nouveau, parce que ces gens étaient dans la même situation que nous. Ça c'est important, exhortation. Donc, Pierre, il va avec ces gens, il comprend que Corneille, donc il a eu cette vision de Dieu, cet homme n'est pas chrétien, il est croyant en Dieu, mais il ne connaît pas Jésus. Pierre y va, il prêche l'évangile, il trouve Corneille, il trouve sa famille, il trouve beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui sont dans la maison pleine, et puis il demande, Dieu m'a révélé, pourquoi tu viens Pierre? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ça c'est merveilleux, quand les gens viennent, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et Pierre annonce l'évangile, et les gens sont sauvés. Comment est-ce que Pierre le sait? Parce que ces gens sont touchés par le Saint-Esprit, commencent à parler en langue. Il y a un changement en eux. Il y a bien des chrétiens qui sont de vrais chrétiens, mais ils ne parlent pas en langue. Pas encore. C'était mon cas aussi. Donc je vous comprends, si ce n'est pas la situation, aucun jugement. Mais moi j'ai connu ça pendant longtemps, que je ne savais pas ce que ça veut dire parler en langue. Et il ne fallait pas parler avec moi non plus des guérisons. Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Il a 2000 ans, oui. C'était comme ça. J'étais un chrétien évangélique tout court, mais pas charismatique. Je ne croyais pas dans les dons. Je croyais quand même dans le fruit de l'esprit, parce qu'il faut être gentil, il faut avoir l'amour, la paix, la joie, oui, mais le don de l'esprit, non. Alors, après cela, donc il y avait la conversion de Corneille, sa famille, ses amis, une nouvelle porte s'est ouverte. Mais maintenant, j'aimerais vous donner quelques remarques, quelques définitions, justement, quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, un songe n'est pas un rêve. Est-ce que vous avez entendu l'expression « le rêve américain »
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, le rêve américain? Comment? Dis. La réussite, sur tous les plans. Avoir une belle maison. Pour un homme d'avoir une belle femme. Ça n'existe pas. Toutes les femmes sont belles, pas une. Je suis bien retombé sur mes pieds. Il y a quelqu'un qui a dit, alors tu as besoin, quelqu'un a dit, tu as besoin d'une femme qui cherche un homme. trouve un homme, ça doit exister, et quand on dit ça existe, quand même, il y a des hommes qui sont beaux, qui sont magnifiques, qui sont intelligents, qui sont riches. Il y a quatre coins au monde, on trouve. Et puis, quand on a dit oui, dans quatre coins du monde, mais dommage que le monde est rond. Alors, le rêve américain, c'est quoi? Avoir une belle maison, avoir un téléviseur, avoir un frigo, avoir une belle maison, une belle voiture. Pourquoi je le sais? Parce que mes parents sont partis aux États-Unis pour ce rêve américain. Et quand nous sommes allés en 1966 en congé, ma femme et moi, belle maison. Grande téléviseur, frigo, peut-être même deux. Et puis, voiture, tout. Tout ce qu'ils n'avaient pas en Hollande, on avait aux États-Unis. Seulement, ils ont oublié. Quelques années plus tard, ils sont allés en Hollande. En Hollande, on l'avait aussi. Le rêve américain est devenu un rêve européen. Il n'y a rien qui a changé. Le monde sans Dieu cherche la même chose. Réussite, comme tu dis, la réussite dans son travail. Beaucoup d'argent, pas beaucoup de travail. Il ne faut pas travailler trop, beaucoup d'argent. Mais le rêve américain est devenu le rêve européen, c'est le rêve mondial. Pourquoi les gens veulent changer de l'Afrique et de l'Asie, venir ici en Europe? Parce qu'ils pensent ici, on a tout. Ce qui n'est pas vrai, parce que sur le plan spirituel, c'est dommage. Alors maintenant, quelques définitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot rêve. Vous savez d'où ça vient? Ça vient du vieux français, l'ancien français, vagabonder. Ça vient du latin ex vagus. Tu connais pas bien le latin, un petit peu. Tu connais un petit peu le français, un petit peu le néerlandais, c'est ma langue maternelle, un petit peu l'anglais, un petit peu l'allemand. J'ai appris quatre langues. Et une fois, quelqu'un m'a dit, « John, est-ce que tu parles aussi le latin ?» Je dis, « C'est pas difficile, c'est omnibus, autobus, terminus. » Alors, mais c'est vrai, c'est véridique. J'ai dit ça à l'eau vive, le centre l'eau vive Provence une fois, quelques mots. Parce qu'ils avaient entendu que je connais un petit peu quelques langues, mais le latin, je ne connais pas vraiment. Mais en latin, c'est ex vagus, ça veut dire vagabond. Rêver, c'est un ensemble de phénomènes psychiques que l'on éprouve pendant le sommeil, dont il est possible de mémoriser partiellement le contenu. Parfois, il s'agit d'une chose désirée, de vouloir devenir riche ou d'avoir une belle maison. Ça, c'est rêver. Ah, tu rêves, oui. Maintenant, le mot songe. Le mot songe vient de quoi? Ça vient aussi du latin. Somnus, ça veut dire sommeil. Dans le passé, c'était pour apporter la guérison avec un message particulier, ce qui le différencie du rêve. C'était pour apporter la guérison. Ouais. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est comme un songe, mais pendant la journée. Le mot cauchemar, vous savez d'où ça vient? Qui peut m'aider? Le mot cauchemar est un rêve pénible et angoissant. C'est un mot de l'ancien français, cocher, C-A-U-C-H-E-R, ça veut dire fouler. Et du néerlandais, mar, fantôme. En anglais, on dit nightmare. Fantôme, nightmare, ça veut dire fantôme de nuit. C'est quelque chose qui n'est pas agréable. Le rêve est une manifestation du psychisme et reflète les préoccupations de l'âme et est conditionné par la culture, les rencontres et événements, tandis que le songe exprime la pensée de Dieu. Sachez-le bien, quand on a un songe, c'est quelque chose de très spécial et on sait que ça vient de Dieu. Alors, je veux vous raconter un petit peu mon arrière-plan avant d'aller plus loin dans le sens du songe. Donc, pour longtemps, je l'ai dit déjà, j'étais un chrétien évangélique tout court, mais pas charismatique. Tout ce qui était charismatique, j'étais contre. Surtout parler en langue. Je connaissais une femme italienne. Elle disait d'être une femme évangélique charismatique. Et elle parle en langue. Je dis, Beryl, c'est bizarre cette femme. Elle est une femme italienne qui vit ici en France. Elle ne connaît même pas bien le français. Alors pour parler en langue en plus. Je ne comprenais rien, vraiment. Vraiment, je ne comprenais pas bien. Les gens qui parlent la langue, d'abord, parlent bien ta langue. Et la langue française n'est pas facile. Donc, pour longtemps... Bonjour. Pour longtemps, j'ai un chrétien évangélique, mais pas charismatique. Mais tout a changé. En 1984, mes chers amis, tout a changé. Pendant un certain temps, nous étions invités en Hollande pour les conférences, pour enseigner là, les conférences des chrétiens qui faisaient de la musique. Et puis, un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'appelle Floyd McClung, qui était directeur de Jeunesse en Mission. Floyd McClung, Jeunesse en Mission. Et j'ai dit, nous sommes en France, ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas combien de chrétiens on est en France. Peut-être 0,5%, peut-être 1%, pas beaucoup sur la population. Quand tu prends une rue avec 100 personnes, peut-être une ou deux personnes sont vraiment chrétiens évangéliques. Et charismatiques encore moins. Et je dis, c'est pas facile. Il dit, John, Beryl et toi, nous vous invitons à une conférence en Hollande. C'était dans un couvent. Vous payez ce que vous voulez pendant une semaine. Nous sommes allés. C'était une conférence charismatique. Moi qui étais toujours allergique à tout ce qui était charismatique, ça rime en plus. Donc je suis allé avec Beryl et nous étions bénis. Vous savez combien nous étions bénis? Comment nous étions bénis? Pas par les messages, mais par l'amour. Il y avait tellement l'amour entre eux, qui venaient de différentes villes, qui ne se connaissaient pas. L'amour pour nous, j'ai été touché par leur amour. Aussi par les messages, mais surtout par leur amour. Floyd McClung et son père étaient là, nous étions très touchés. Et je voyais des gens, et ils enseignaient bien. Et c'est ça, j'ai dit, mais ce sont des chrétiens qui sont différents de ce que j'ai vu jusque maintenant. J'étais seul dans la chambre. On était 5-6 hommes dans une chambre, parce que c'était couvent, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, bien sûr. Donc j'étais seul dans une chambre, parce qu'il y avait aussi des ateliers. Et un après-midi, j'ai prié, je dis, Seigneur, que je suis content, que c'est merveilleux d'être ici. Merveilleux de t'avoir, Seigneur. Alléluia. Et je commence à parler en langue. Personne n'est avec moi, on n'a pas prié pour moi, on n'a pas imposé la main. Je commence à parler en langue, tout seul. Et je suis devenu un autre homme, c'était en 82, en septembre, dans un couvent en Hollande. Ma vie a changé. Sans pression psychologique, sans être là avec un pasteur qui a prié pour moi, j'étais tout seul avec le Seigneur. Je l'ai dit à ma femme, et Beryl voulait d'abord étudier, et un an plus tard, elle a eu la même expérience que moi. Mais elle voulait d'abord étudier pour elle-même, elle ne voulait pas être pressée par moi. Elle a bien raison. En 87, donc ma vie a changé dans un couvent catholique. En 87, de nouveau, je me trouve dans un couvent catholique, cette fois à Merville. C'était merveille. À Merville, ici dans le nord de la France. Je suis dans une conférence charismatique et nous avons reçu là, nous étions ensemble avec des chrétiens ici du nord, du monde charismatique, des responsables, anciens, pasteurs, nous étions ensemble. Et puis là, nous avons reçu un enseignement sur la prophétie. Vraiment très fort. Parce que tout ce côté prophétique, je ne le connaissais pas. Et cet homme qui a donc donné un enseignement fort sur la prophétie, il a donné une prophétie pour un couple. Et c'était Beryl et moi. C'était pour la première fois que nous étions dans une réunion charismatique en France. Et il nous a vus, il dit, j'ai une prophétie pour vous. Et il a donc prononcé ces mots que nous étions dans une rivière et on allait flotter ensemble dans le même sens pour un ministère ensemble à deux. C'est en 87. En 88, j'étais dans une église à Tourcoing. Il y avait 400-450 personnes peut-être. Un autre prophète est venu. Lui aussi, il a enseigné et après, il a commencé à donner des prophéties. Et il a donné une prophétie pour un couple là, pour un couple là, et aussi pour nous. Et tous ces couples, il y avait 4 ou 5 couples, c'était tous des anciens de l'Église. Et moi aussi, j'étais ancien dans l'Église, et il a donné la même prophétie que l'on a reçue l'année avant, il a donné à Beryl et moi qu'on allait avoir un ministère à deux ensemble. Parce que j'étais pasteur pendant des années déjà seul, Beryl faisait des réunions d'enfants, bien sûr, Jean-Luc, tu es venu de temps en temps prêcher à Montrocher, tu connais tout ça. Et puis nous sommes passés par des moments très très difficiles en France, très difficiles. On a bavé beaucoup. Je ne donne pas la définition de bavé, mais vous me le comprenez. Et donc, encore une réunion prophétique, le Seigneur nous a parlé. Et puis après cela, donc, juste une, vous allez avoir un ministère. Et puis il a donné des images que c'était pour les gens qui étaient loin, les gens qui étaient tout près. Et en effet, on a donné après cela des cours parce qu'on a suivi en 89, on a suivi un cours de relations d'aide dans un, c'est comme une année universitaire sur la relation d'aide. On l'a traduit en français. On a donné ces cours en Belgique et en Angleterre ou en France. On a vu des centaines de personnes. Nadège aussi a suivi ses cours, et puis il y a des gens qui venaient chez nous à la maison souvent aussi pour être aidés sur le plan spirituel. Donc relation d'aide pendant des années, Beryl et moi nous faisons ça ensemble. On a donc donné des cours à deux, en effet on a eu un ministère à deux. Et en plus Beryl a reçu de la part du Seigneur aussi ce don de la prophétie. Elle a donné des prophéties aux personnes mais aussi à l'église entière. Souvent c'est arrivé. Et Beryl a encore des feuilles, elle a vu encore cette semaine des prophéties qu'elle a données. Il y a des personnes ici aussi qui ont reçu des prophéties de la part du Seigneur. Et celui qui donne une prophétie, tu le donnes si la personne le reçoit, c'est bien. Sinon, tu n'es plus responsable. On donne une prophétie et après cela, il ne faut pas s'en faire quand ça ne va pas comme tu le veux, tu donnes. Comme moi, je donne le message, vous le faites avec ce que vous semble bien. Mais ce n'est pas à moi la responsabilité après. Maintenant, pour illustrer ce que je viens de dire, j'aimerais vous donner trois songes que j'ai reçus. Le premier songe, c'est dans une gare hermétiquement fermée, avec les chefs de gare attachés au mur. Je redis cette phrase, ça parle donc du fonctionnement de l'église, un songe d'une gare hermétiquement fermée, avec les chefs de gare attachés au mur. Et cette gare, c'est l'image d'une église locale. Ce songe formait une confirmation d'une prophétie reçue par une de mes étudiantes. J'étais professeur à l'école publique pendant 10 ans, 12 ans. Et il y avait une étudiante qui est venue me voir un jour, une femme qui venait de l'Afrique, chrétienne, engagée, une des meilleures étudiantes que j'ai eues. Elle dit, pasteur, j'ai un songe, ou j'ai une parole prophétique pour les anciens de votre église. Et cette prophétie n'était pas une prophétie agréable à entendre. Elle me raconte beaucoup de choses, dit, mais tu sais, s'il te plaît, tape ça pour moi, et moi je donne ça aux anciens, ce que j'ai fait. Et dans cette prophétie, c'était écrit, ça revenait à ça, Dieu n'est pas content, tous les anciens de votre église doivent partir. Dieu n'est pas content des anciens, ce qui se passe. Tous les anciens doivent partir. Bien sûr, j'ai lu ce que la fille m'a donné, parce que c'est une prophétie qu'elle m'a reçue de la part de Dieu. Cela n'a pas été accepté par les anciens. Mais moi, j'ai obéi et je suis parti le premier. Je suis parti le premier et ensuite, les autres ont suivi, pratiquement tous. Il paraît que le pasteur n'était pas d'accord avec la fille qui avait reçu la prophétie. Et ça, je vous dis quelque chose, c'est très grave ce que je dis maintenant. Il paraît que la fille, parce que nous étions en vacances en Angleterre, il paraît que cette jeune femme qui avait 27, 28 ans, elle a dit, si ça ne vient pas de Dieu, moi je vais mourir. Mais si ça vient de Dieu et vous ne l'acceptez pas, le pasteur va mourir, il est mort. Moi j'ai des témoins de ça. Quelques temps après, lui il est mort. Si on accepte pas ce que Dieu dit, c'est grave. Ce que je dis ce matin, on peut rire de temps en temps, mais quand Dieu parle, il parle. Par songe, par vision ou par prophétie. Moi je l'ai expérimenté. Je sais de quoi je parle. Il faut accepter ce que Dieu dit, sinon tu deviens responsable. Et puis moi j'ai vu des choses qui sont remarquables. Donc j'ai donné ma démission. Une réunion d'anciens, j'ai dit, je ne viens plus, ni à l'église, ni dans les réunions d'anciens. Je ne suis plus responsable avec vous, j'ai donné ma lettre de démission, mardi soir. Le jour après, mercredi soir, Jean-Luc me téléphone. Il n'est au courant de rien. Ni Annette, ni Jean-Luc. Jean-Luc dit au téléphone, « John, je veux te demander quelque chose. Annette et moi, nous n'avons jamais eu en France une couverture spirituelle. » C'est ça que tu me dis. Est-ce que vous voulez l'être? C'est le jour après ma démission. Pour moi, c'est une confirmation que j'ai bien agi. Il faut d'abord détacher pour s'attacher. Après cela, le dimanche après, nous étions dans la petite salle là, derrière. C'est juste parce que ce témoignage vous concerne. Et après cela, nous sommes restés pendant 5, 6, 7 ans ici, à Bavrin, avec vous. C'est le moment. Nous étions toujours dans une grande église, 450 personnes. Et je peux vous dire, j'ai pensé à ça cette nuit. Cette église de 450 personnes, s'il y a 50 personnes qui restent là aujourd'hui, c'est beaucoup. 50, 60, 70 peut-être. Mais l'église, peut-être un cinquième, peut-être 20% de ce qu'on avait avant. Ils sont tous partis pratiquement dans des autres églises. Je ne dis pas qu'ils sont partis dans la nature, mais nous avons connu ça. Nadège était là avec nous, Beryl et moi. Nous étions dans la même église. Nadège est au courant de tout ça. Parce qu'elle est un petit peu comme notre fille spirituelle, comme Anne aussi. On se connaît toutes ces années. Et puis on a souffert ensemble, on a prié ensemble, on a lutté ensemble. Et combien on en a besoin de la communion fraternelle. Mais Beryl et moi, nous avons vu, quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien. On ne joue pas avec des choses de Dieu. Donc après cela, Jean-Luc, nous avons eu une communion fraternelle depuis des années, parce que même avant le mariage, j'ai connu Annette. Elle est toujours jolie, mais elle était jolie en ce moment-là aussi. Mais toutes ces années, on a nagé ensemble. Voilà. Pourquoi l'explication de ce songe? Je vais vous donner l'explication pourquoi Dieu n'était pas content. Parce que la tristesse de Dieu était de voir un esprit de contrôle chez certains pasteurs d'avoir arrêté la pratique des dons spirituels dans leur église locale. Parce qu'on dit, pourquoi Dieu veut que les gens... Quand on commence à freiner Dieu... Dieu veut se révéler par les dons spirituels, par les prophéties, par les en langue, par toutes sortes de choses, par les visions, par les songes. Dieu n'est pas content. Alors c'est mieux que les anciens et les pasteurs partent. Si c'est pour leur gloire, pas pour la gloire de Dieu, Dieu ne donne pas la gloire à un homme. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc j'ai eu ce songe, et ça c'est quelque chose, j'ai eu ce songe comme confirmation. Ce que la fille a reçu, ce que la jeune femme a reçu, c'était bien la vérité de Dieu. Dieu m'a donné ce songe de cet homme qui était là, donc attaché au mur. Il était comme ça, chef de gare. Le train ne pouvait ni arriver, ni partir. Il n'y avait pas de nouvelles personnes qui pouvaient arriver. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient partir. Tout était dans un sens prisonnier. Il était attaché au mur. C'est ça que ça voulait dire. J'ai un songe pour confirmer que c'était bien là, ce que Dieu a reçu. Parce que l'Église appartient à Jésus, pas à un homme. Mettez ça bien dans votre tête, l'Église locale n'est pas un jouet pour les hommes. C'est quelque chose de sérieux, on a la joie, mais c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et Jésus a dit, c'est moi qui bâtis l'Église. Et ça, c'est une consolation pour moi. Ce qui compte le plus, ce que Dieu veut pour son Église locale, ça, écoutez-les bien, c'est très important. Ce que je crois, ce que Dieu, la première chose, ce que Dieu veut pour les églises, pour les membres dans une église locale, la maturité chrétienne. La maturité chrétienne avant toute chose. Il veut qu'on ne reste pas des bébés spirituels, avec un biberon spirituel. Et comment est-ce qu'on montre la maturité chrétienne? On le montre par l'amour pour Dieu et pour son prochain. Et de devenir comme Jésus. Romains 8, verset 29. Je ne sais pas si tu as ça. Je ne t'ai pas réveillé, j'espère. Ta parole est une lampe à mes pieds, on l'a vu. Oui, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. On aime bien ce verset, hein? C'est merveilleux. De ceux qui sont appelés selon le sein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il, c'est Dieu, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le plan de Dieu pour vous, c'est que vous deveniez de plus en plus comme Jésus, dépendant de son Père, dépendant de Dieu. Donc la maturité chrétienne, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la multiplication. Seulement la deuxième, pas la première. Il y a des gens qui aiment, mon église doit devenir plus grand, on ne voit pas beaucoup de gens. Oui, deuxième chose. Première, maturité chrétienne. De devenir stable, d'aimer le Seigneur, de pratiquer ce que Dieu nous a donné. Le fruit de l'esprit, le don de l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord jusque maintenant? Autrement, je pars. Bien. Alors. Deuxième songe que le Seigneur m'a donné. Deuxième songe. Dans un songe, c'était un vendredi nuit. Je me souviens très bien. Mon songe, je le vois dans mon songe, Beryl et moi, nous marchons sous la pluie dans un pré avec beaucoup de trous profonds. Nous y marchons dans un pré sous la pluie, forte pluie, dans un pré avec notre fille Christine. J'aime bien les Christine, moi. Il y avait des trous dans le pré. Et à un certain moment, je criais dans mon songe, « Christine, attention, tu vas tomber dans un trou, tu peux te noyer. » C'est des trous profonds. Donc dans ce songe, on peut réagir et j'ai crié très fort, « Christine !» Et le lendemain, j'ai dit à Beryl, « Tu n'as pas entendu que j'ai crié le nom de Christine ?» Elle dit, « Je n'ai rien entendu. » Mais dans mon songe, moi j'ai crié, j'ai répondu. Parce que je voyais le danger. Je voulais protéger ma fille. Je n'avais aucune idée de la signification de ce songe. On peut avoir un songe sans savoir de quoi il s'agissait. Jean-Luc ici, il est au courant de ce songe parce que j'en ai parlé avec lui. Tu te souviens encore vaguement? Oui, mais à ton âge, on oublie, je comprends. La signification du songe est devenue claire le lendemain. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'avais téléphoné toute la semaine notre fille Christine pour avoir de nouvelles, pas de réponse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'elle était en vacances, elle ne travaillait pas. Je téléphone tous les jours, pas de réponse. Samedi midi, je téléphone. Donc vendredi nuit, c'est le songe. Samedi midi, je téléphone Christine. Je dis, bonjour Christine, où étais-tu? J'ai essayé de te parler par téléphone, pas de réponse. Elle dit, non, j'étais chez une copine et tout le reste, je n'étais pas à la maison. D'accord. Je dis, mais j'aimerais te dire quelque chose. Et je raconte le songe à ma fille, Christine. Silence. Complètement silence. Elle dit, papa, en ce moment, je m'y trouve, justement, dans ce trou. Pour la première fois, elle ouvre vraiment son cœur, parce qu'elle ne parle jamais de ses problèmes. Tout allait bien, toujours. Elle dit, en ce moment, je suis dans une situation difficile. Et puis, quelques jours après, elle dit, ce que tu as vu, c'est vrai, je m'étouffe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas dans mon mariage. Ça allait tellement mal, divorce. Elle a divorcé. Mais elle n'aurait jamais dit, à ce moment-là, le Seigneur m'a donné un songe le vendredi, et le samedi, j'ai eu le songe. Et on a souffert, Beryl et moi, parce que dans ma famille, je ne connaissais pas les divorces. Plus tard, mon frère aussi a divorcé en Hollande. Donc ma fille aussi divorcée, elle est toute seule, toujours toute seule. Donc la signification du songe est devenue claire le lendemain. Parfois on peut avoir un songe, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça allait très mal dans son mariage, c'était triste pour nous. Et Satan, ça je peux vous dire, Satan fait tout pour briser le mariage. Parce que les mariages forment le pilier de la société. Et il y a des villes, il y a des régions où il y a moitié des gens divorcent. Il y a des églises, c'est pareil, 30-40%. Pourquoi? Parce qu'on a mal choisi peut-être, ou mal agi, mal réagi, je n'en sais rien. Je ne jette pas de pierre, mais c'est compliqué. Et s'il y a des mariages qui sont brisés, Satan frotte les mains. Et ses mains sont sales. Troisième, encore un songe pour illustrer. Mon songe avec deux arbres qui sont devenus un arbre. Il y avait environ 30 ans, il y avait un homme qui s'appelle Daniel, je ne dis pas son nom de famille, mais il s'appelle Daniel. Il a un songe en forme de vision. Il voyait deux arbres devenant un arbre, avec la pensée que Dieu voulait unir mon église, une petite église à Tourcoing, à son église qui était plus grande, pour former une nouvelle église locale. Cette église, à lui, c'était une église charismatique, et la nôtre ne l'était pas au début. Mais moi, j'avais changé. Je suis devenu un chrétien évangélique, charismatique. Et donc, j'ai reçu ce songe Et j'ai répondu. Et j'ai senti dans mon cœur, ça venait de Dieu. Et donc, c'est arrivé. Ce qu'il a vu, donc, en vision, que nos deux églises allaient devenir une église. En même temps, je dois vous dire, j'ai trouvé le livre encore hier. J'étais en train de lire un livre, et dans ce livre est écrit par un chrétien engagé. Il dit, si vous voulez avoir la bénédiction dans votre ville, dans votre village, dans votre région, il faut que les dirigeants, les anciens de l'église, il y ait un contact entre eux, entre églises, un bon contact entre chrétiens qui sont dirigeants. C'est important. En même temps qu'il a donné, qu'il a eu cette vision, ce songe, aussi, Dieu a parlé à mon cœur et donc j'ai senti que c'était le moment de Dieu. Ce que je n'aurais jamais fait avant. Parce qu'avant cela, je voyais rouge. Un pasteur qui était charismatique, dangereux. Mais tout a changé quand le Seigneur a touché mon cœur par le Saint-Esprit. Une dizaine d'années après, j'ai rencontré de nouveau ce frère parce qu'il était en mission en Afrique. Il est revenu et il m'a dit que ce songe de ces deux arbres, qui sont devenus un arbre, nous concernait, lui et moi. Et que Dieu voulait qu'on allait travailler ensemble pour Dieu ce qu'on a commencé à faire. Intéressant. Donc on peut avoir un autre éclairage sur le même songe. Après avoir reçu cette nouvelle interprétation, nous, lui et sa femme, et Beryl et moi, nous sommes allés en vacances à quatre dans un centre de vacances appelé Valjoli. Ce n'est pas trop loin, c'est environ 80-100 km de Lille. Là, très intéressant, mes chers amis, là pendant la nuit, un mardi nuit, Dieu me donnait un songe. Et dans ce songe, qu'est-ce que je vois? Je vois deux arbres qui sont devenus un seul arbre. Moi, je le vois moi-même, une confirmation de ce que lui, il a eu en vision. Moi, je l'ai eu pendant la nuit en songe. Des années après, une confirmation. C'était un mardi nuit, je le sais, c'était un mardi. Parce que le mercredi, nous sommes allés nous promener dans une forêt, pas si loin de Valjoli. Et dans cette forêt, nous avons fait une découverte étonnante. Il y avait une petite fille qui était sur le chemin, Beryl et moi. Beryl et la femme de mon ami étaient devant nous et nous étions derrière parce qu'on prenait des photos. Il y avait un lac, il y avait beaucoup d'arbres, c'était joli comme tout. On a pris des photos et il y avait Beryl et cette dame ont découvert une petite fille de 10-11 ans qui s'appelle Marie, je me souviens encore. La petite Marie, les femmes ont parlé avec elle. Dit, est-ce que vous connaissez le moulin? Il y a un moulin ici dans la forêt. Non, on ne connaît pas. Alors, je vais vous conduire. La petite fille, donc, elle a marché. Et puis, après cela, il y a aussi deux arbres qui sont devenus un arbre. Elle dit, il y a deux arbres dans cette forêt qui sont devenus un arbre. On ne l'a jamais vu. Elle commence donc à marcher. Nous quatre, nous l'avons suivi, la petite fille de 10-11 ans, Marie, qui nous a dirigés vers ces deux chênes qui sont devenus un arbre ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'aime la photographie. Je les ai pris ici et j'ai la photo avec moi. Si vous êtes intéressé, voilà la photo que j'ai prise. Là, vous pouvez la passer un petit peu parce qu'autrement, ça va prendre une demi-heure. Deux arbres sont devenus un arbre. Et Dieu a donc confirmé ce que nous avons vu devant nos yeux, encore le songe que j'ai eu. Mais je trouve que c'est remarquable. Et vous savez, il y avait une plaque tout près de ces arbres, c'est écrit, c'est les jumelles, on appelle ça les jumelles, arbres remarquables. Chêne Rouvre ou Cécile. Ce sont deux chênes ayant poussé côte à côte, et ils ont maintenant 120 ans et ont une conférence de 5,70 m à 1,50 m du sol. Les chênes ont une capacité de résister au vent grâce à une racine qui descend profondément dans le sol. Le forestier, séduit par l'originalité et la beauté de ces deux chênes, a décidé de renoncer à leur coupe et les a classés comme arbres remarquables. Leur rôle est maintenant essentiellement touristique. Le forestier se limitera à contrôler leur croissance et leur bon état sanitaire. Ces deux arbres disparaîtront par mort naturelle. Mais c'est remarquable tout ça. Donc moi j'ai eu un songe. Le lendemain, j'ai vu deux arbres qui sont devenus un arbre. Il faut le faire. Mais c'est ça mon Dieu. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. C'est pour moi une confirmation que Dieu il veut nous encourager. Pourquoi je dis tout cela? Parce que nous avons seulement une vie à vivre. Et on a besoin de, vous avez besoin de savoir ce qui est un songe, ce qui est un rêve. Alors pour cela, j'ai mis sur mon papier pour terminer. Quelques considérations importantes que j'ai constatées. Et c'est peut-être une réponse à vos questions. Il y a peut-être des gens qui ont des questions. J'ai juste quelques petites remarques importantes. Écoutez bien. Dans un songe, les images sont claires. Mais la signification peut être cachée. Comme pour Pierre. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il a eu trois songes identiques, mais il ne savait pas ce que ça veut dire. Deux. Le songe est souvent lié à un moment important de la vie ou une situation précise. Les païens perdus, comme Corneille, un problème de mariage pour ma fille. Moi j'ai un songe, je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'est elle qui m'a dit plus tard. Trois, le songe peut comporter un avertissement ou un encouragement. C'est un encouragement pour la conversion de Cornelius, pour Corneille et le songe des deux arbres. Donc ça peut être un avertissement ou aussi ça peut être un encouragement. Quatrièmement, le songe peut être pour soi-même ou pour autrui. Changement de Pierre et salut de Corneille et pour moi de pouvoir travailler avec un autre frère. Cinq, le songe peut arriver sans l'avoir demandé à Dieu, comme pour moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais demandé, Seigneur, donne-moi les songes s'il te plaît. Mais c'est arrivé. Donc ça se peut qu'un jour Dieu vous donne un songe. Sachez bien, c'est quelque chose de très clair. Ce n'est pas comme un rêve. On sait les détails, c'est en couleur, on voit tout. Pour moi, je l'ai eu 4, 5, 6 fois des songes. Et ce n'est pas l'affaire parce qu'on a un certain âge. Le songe peut arriver chez un croyant ou un incrédule. Parce que c'est arrivé chez Pierre qui est croyant et Corneille qui ne l'était pas. Donc Dieu peut donner des songes aux gens qui ne sont pas chrétiens. Et il paraît que dans le monde musulman, il y a des femmes et hommes qui ont des songes, ils voient Jésus, ils sont convertis par un songe. Le songe peut être la confirmation de ce que Dieu dit, a déjà révélé. Pour moi, après la vision de notre frère, moi j'ai eu un songe. Donc ça peut être une confirmation. Dernièrement, huitièmement, le songe ne doit jamais remplacer la Bible ou aller contre la Bible. Très important. C'est un problème pour Pierre à cause d'avoir vécu sous la loi dans l'Ancien Testament. Il dit, ce n'est pas possible, Seigneur, parce qu'il connaissait seulement l'Ancien Testament, mais Dieu a changé parce qu'il voulait aussi que pas seulement les Juifs, mais aussi les païens soient sauvés. Vous comprenez un petit peu. On peut tellement être attaché, frères et sœurs, à certaines traditions, et les traditions ne viennent pas toujours de Dieu. Et Dieu dit, laisse tomber. Parce que c'est comme le singe qui a sa main dans une bouteille, vous connaissez peut-être l'image, et dans cette bouteille, il met sa main dedans parce qu'il y a des cacahuètes dedans. Et c'est longtemps qu'il garde les cacahuètes dans ses mains. Il est prisonnier de la bouteille. Il doit laisser tomber. Et il y a de certaines traditions, laisse tomber. Parce que moi j'avais des traditions, attention, évangélique, ça suffit, charismatique, dangereux. Je voyais rouge. Après cela, je dis, vois pas rouge, jaune, ça vient de moi. Conclusion, pour terminer. Dieu veut nous parler aujourd'hui, à nous tous, et nous encourager d'abord par sa présence, par le Saint-Esprit et par sa parole, sachez-le. Si vous n'avez jamais eu de songes, et si vous ne l'aurez pas, vous n'êtes pas moindre. Parce que Dieu vous aime, il veut parler par sa parole à nous tous et par sa présence. Et chaque jour, pratiquement chaque jour, quand je me réveille, même pendant la nuit, à 3h, 4h, ça m'arrive, je me mets à côté de mon lit, et je dis, Seigneur, je suis seulement reconnaissant. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci pour Jésus. Merci pour ma famille. Merci pour mes amis. Merci pour ma maison, Seigneur. C'est ta maison. Merci pour mon jardin. C'est ton jardin. Je peux marcher dedans. Merci pour la voiture. C'est ta voiture. Moi, je peux rouler dedans. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu me donnes. Tu es bon. J'ai un cœur reconnaissant et en paix. Alléluia. Donc, c'est la première chose. Ensuite, Dieu peut nous parler aussi par des songes, par les rencontres divines, par les circonstances, par les prophéties, par les visions, par les paroles de connaissance, par les dons spirituels. Donc il a les fruits spirituels pour nous tous, mais il y a aussi des dons spirituels qui sont différents. Mais là, par exemple, pour la prophétie, vous pouvez le demander. C'est écrit, 1 Corinthiens 14, aspirez aux dons spirituels aussi. Si vous voulez vraiment que Dieu vous emploie dans ce domaine, demandez, Seigneur, j'aimerais bien recevoir des prophéties. C'est dans la Bible. Nous devons vouloir plaire à Dieu avant toute chose et vouloir entendre sa voix. Jésus dit, Jean 10, verset 28. Mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est un verset qui nous a aidé énormément, Béryl. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? On a chanté au Château Blanc le chant de berger. J'aime beaucoup ce chant. Ça, c'est un chant merveilleux. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Double sécurité dans les mains de Jésus et dans les mains de son Père. C'est comme ici, je prends ça dans ma main et mets tes mains sur mes mains. Comme ça, double protection. Main de Dieu de Père. Et mère de Jésus, mère de Jésus, c'est vrai, merveilleux. C'est ça que Dieu veut. Double protection. Mes brebis entendent ma voix, Seigneur, c'est une de mes premières prières. Priez pour ça. Seigneur, je veux entendre ta voix. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous voulez dire avec moi? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir la main de mon Père. Amen. Juste, c'est presque terminé. Nous devons vouloir plaire à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu. Avant toute chose, vouloir entendre sa voix. Jean 10, verset 28. Je l'ai dit au Château Blanc et je l'ai redit ici maintenant, aujourd'hui. 90% de la volonté de Dieu concerne la même chose pour nous tous. C'est aimer Dieu avec tout son cœur, tout son être, toute sa pensée, toute sa force, et nos prochains comme nous-mêmes. C'est un grand programme. 90%. Et aussi, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. D'avoir le caractère de Jésus, d'être comme Jésus. Donc aimer Dieu, aimer notre prochain, vraiment donc pratiquer les fruits de l'esprit, c'est 90% pour nous tous. D'accord? 10%, c'est la volonté spécifique pour chacun de ses enfants. Et ça, vous pouvez l'obtenir par les dons spirituels, par les rencontres divines, par les songes, par les circonstances arrangées par Dieu et les contacts. Et j'ai terminé juste une phrase. Dieu est bon pour nous tous ici. Ce que nous avons encore constaté, j'ai mis ça sur ma feuille, pendant un culte à Vavrin, il y a quelques semaines, une réunion remplie de bons témoignages à la croix de notre Seigneur Jésus. On a eu des témoignages, je ne sais pas combien, 8, 10 témoignages. Le Seigneur, il est là, il nous fait du bien. De bons messages là? Alléluia. Je veux juste prier avec vous et je voulais me mettre debout, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie. Pour chacune ici, et je bénis mes frères et sœurs et je demande vraiment que tu parles à leur cœur, qu'ils puissent entendre la voix du bon berger, aujourd'hui et dans les jours à venir. Et le bon berger vous dit, je veux vous visiter, je veux vous fortifier, je suis là pour vous guérir, je le crois de tout mon cœur. Je suis là pour vous encourager, vous avez besoin de l'encouragement, je vous le donne. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime l'église de Vavrin. C'est Dieu qui vous parle. Je suis avec vous. Ne craignez rien, car moi je suis avec vous. Ne détourne pas des yeux inquiétants. Dieu vous dit cela. Ésaïe 54, verset 10. Au 51, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regrets inquiets, car je suis ton Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Et si le Seigneur vous donne des songes, ça peut vous faire du bien. Demande le Seigneur ce que ça veut dire et il va révéler ces choses en son temps. Parce que Dieu vous aime, il veut vous faire du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.